il est 8h21 sur France Culture et c'est une matinale politique. Sur France Culture, comme vous le savez, nous recevons Lydia Guirous. Bonjour, vous êtes candidate Les Républicains aux élections européennes, porte-parole des Républicains. Une réaction à ce que vient de dire Frédéric Saïs, votre manière de vivre et de commenter les résultats des sondages, et ne nous dites pas que vous ne les regardez pas.
Alors effectivement, les sondages, ça peut donner, quelques indications, mais rien n'est encore fait. Et c'est vrai que si on avait regardé les sondages, certains seraient présidents de la République aujourd'hui et ils sont pourtant au Conseil constitutionnel. Et il y a tellement d'autres exemples. Moi, je considère que la campagne, elle commence maintenant. C'est la dernière ligne droite. C'est maintenant qu'il faut concentrer ses efforts. C'est maintenant que les Français vont commencer massivement à s'y intéresser. Et c'est maintenant qu'il faut se déployer au maximum.
Didier Guirous, où sont vos électeurs, ceux qui ont voté François Fillon et qu'on ne retrouve pas alors aujourd'hui en intention de vote, ou bien ceux qui ont voté pour vous aux dernières européennes? Pourquoi ne sont-ils pas tous là, si l'on en croit encore une fois les estimations?
Alors écoutez, il faut quand même se rappeler d'où revient la droite, malheureusement. Ça fait maintenant 18 mois qu'on reconstruit la droite. Il faut pas oublier dans quel état on l'a retrouvée. On a eu des épisodes traumatisants, je pense quand même à l'élection présidentielle. On a reconstruit depuis, étape par étape, avec des fondations solide, et maintenant on mène une campagne européenne avec une équipe qui est soudée, avec une équipe qui est aussi une équipe de rassemblement. Moi j'étais au meeting de Paris, Valérie Pécresse était là, Gérard Larcher, Christian Jacob, on est avec les centristes, Hervé Morin aussi, donc la droite unie, rassemblée, avec une liste qui allie expérience et renouvellement, et on avance. On est parti à 8%, on est autour de 14%, donc on est en train de créer la dynamique, mais tout est encore à faire jusqu'à dimanche prochain.
Frédéric, c'est vrai qu'il est assez indéniable que des personnalités qui étaient très sceptiques au début sur la personne de François-Xavier Bellamy se sont plutôt convertis au bellamisme. Je pense à Gérard Larcher, le président du Sénat, qui avait émis des critiques publiques
bien
et qui
sûr,
désormais assiste au meeting.
Bien sûr.
Cependant, vous dites à juste titre que vous êtes maintenant crédité de 13 à 14% d'intention de vote. Beaucoup de commentaires disent que cette campagne est en dynamique. On peut quand même nuancer ce constat, puisque c'est vrai que François Fillon, même avec une cohorte d'affaires qui était derrière lui pendant la dernière présidentielle, il fait tout de même 20%
et, vous savez,
et 7 millions de voix.
Quand il y a eu ce cataclysme de la présidentielle, c'est la première fois dans l'histoire que la droite n'est pas présente au second tour de l'élection présidentielle. Y a de quoi écœurer quand même beaucoup de nos militants et beaucoup de nos électeurs. Et aujourd'hui, le challenge, c'est de leur dire, on reconstruit une droite qui est crédible, une droite qui est solide, une droite qui a des convictions, une droite qui a une colonne vertébrale. On a envie de reconstruire cette droite-là. On est en train de le faire et je pense qu'on a encore du chemin pour convaincre l'ensemble de nos électeurs de revenir vers nous. Néanmoins, on a quasiment doublé notre score par rapport au sondage de cet hiver et je pense qu'il faut le souligner. Il faut aussi souligner que des personnalités comme François Baroin, qui était assez sceptique, sont revenus et ont apporté leur soutien à notre liste. Des maires qui ont été séduits par l'illusion Macron. Je pense notamment à Christian Estrosi, je pense à Jean-Louis Modinck, maire de Toulouse, je pense à Arnaud Robinet, le maire de Reims, qui était reçu à Matignon, à l'Élysée, et qui ont cru en cette illusion du macronisme, sont revenus et soutiennent la
liste.
Les barons
reviennent, les électeurs pas encore.
Électeurs reviennent également, et les choses vont se faire. On revient d'un grand traumatisme, et on reconstruit avec de nouveaux visages, François-Xavier Bellamy, moi, Agnès Sévrin, et tant d'autres.
Mais alors, s'il y avait un scepticisme vis-à-vis de Bellamy, ça n'était pas seulement pour le score qu'il pourrait obtenir, tout ceci est à mettre encore au conditionnel, Lydia Guirous, tout simplement parce que d'aucuns dans votre camp considéraient qu'il incarnait une ligne trop conservatrice. Vous n'êtes pas du tout sur cette ligne-là, Lydia Guirous.
C'est ce que je vous disais. Écoutez, François-Xavier Bellamy a cette qualité, c'est qu'il a des convictions. C'est assez rare aujourd'hui, et notamment en temps de Macronie, d'avoir des convictions et de les assumer. Moi, je constate par exemple que la tête de liste de La République En Marche, alors qu'elle était en quatrième année à Sciences Po Paris et préparait l'ENA, donc on est quand même éveillé politiquement, ne se souvient pas qu'elle a été sur une liste d'extrême droite et ne savait pas ce qu'était ce syndicat d'extrême droite qui était le GUD. Elle fait dans l'amnésie et
elle
n'assume pas. Elle a changé sans assumer
changer,
et en étant... On n'a pas de changer, mais pas d'être
même, on a été
dans,
jeune,
dans l'amnésie.
On a changé, voilà.
Enfin, en tout cas, l'amnésie à 25 ans, quand on prépare l'ENA, c'est assez étrange et qu'on n'assume pas. Nous, on assume nos convictions. François-Xavier Bellamy a des positions
même
sur certains sujets.
Du tout
ce n'est pas forcément toujours les miennes, c'est pas celles d'autres. Cette liste, comme je vous le disais, c'est l'union de toutes les sensibilités de la droite qui se retrouve derrière un programme qui a été voté au Conseil national à Menton. Et c'est derrière ce programme qu'on se retrouve et qu'on a su faire l'unité de la droite républicaine et du centre.
Alors, revenons au Parlement européen, où vous siégerez si vous êtes élu. Les Républicains, eux, sont au sein du PPE, le Parti Exactement. Populaire Européen, qui est le groupe le plus important dans le Parlement sortant, et dont est issu le président actuel de la Commission, Jean-Claude Juncker, le luxembourgeois. Dans ces conditions, est-ce que vous n'êtes pas finalement co-responsable des échecs de l'Union européenne que vous prétendez maintenant résoudre? Autrement dit, pour faire une métaphore un peu facile, est-ce que vous n'êtes pas le boxeur et le dentiste à la fois?
Mais vous savez, moi je suis pas Eurobéa et je considère pas que tout a été un succès au Parlement européen. Il y a des choses à revoir, elles sont nombreuses, mais c'est aussi ça le sens de cette liste, c'est qu'on a envie de refonder l'Europe. L'Europe a été bien trop lointaine, il y a eu des choses qui ne sont pas satisfaisantes quand ils ont refusé la fusion pour créer un géant européen. Tout ça doit être amélioré et on doit progresser notamment sur les questions économiques pour pouvoir créer des géants européens, notamment dans le numérique, pour pouvoir aussi mettre en place, et ce que nous proposons, la préférence communautaire. Nos marchés publics en France sont ouverts à 90% aux entreprises étrangères. En Chine, c'est moins d'1%. Aux États-Unis, c'est 30% des marchés publics qui sont ouverts aux entreprises étrangères. Donc il faut de la réciprocité et il faut que les marchés publics soient en priorité réservés aux PME et TPE françaises et européennes. Ça permettra de favoriser nos entreprises et donc nos emplois. Et ça, c'est des choses qu'on peut améliorer au niveau européen. L'Europe ne doit pas être le dindon de la farce de la mondialisation. On doit sortir de cette forme de naïveté qui va, si l'on continue, faire de l'Europe un nain économique au moment où vous avez deux pôles qui sont en train de grandir, et notamment en Orient.
En quoi ce que vous venez de dire, Emmanuel Macron, ne pourrait-il pas le dire? Qu'y a-t-il finalement de si différent?
Emmanuel Macron peut tout dire, mais en général, il dit tout, mais il fait rien derrière. Emmanuel Macron peut dire la même chose que des gens de gauche, peut dire la même chose que des gens de droite, mais au final,
Surtout de gens de droite, en ce moment, quand même, Didier Aguirouz, de vous à moi.
Non, bah, franchement,
c'est plutôt à droite et à droite, mais c'est.
Écoutez, moi, je veux bien entendre ça, mais quand on est de droite, on peut pas être avec Ségolène Royal, on peut pas être avec Elisabeth Guigou, on peut pas être avec Jean-Marie Le Guen, on peut pas partager des convictions et un combat avec ces personnes qui sont des mammouths du socialisme et qui soutiennent aujourd'hui la
liste. C'est peut-être des mammouths qui ont évolué, comme Nathalie Loiseau.
C'est assez étrange d'avoir d'ailleurs Nathalie Loiseau qui a été effacée de l'affiche pour mettre le portrait d'Emmanuel Macron, qui est président de la République, candidat aux élections européennes apparemment, puisque c'est lui qui est sur les affiches. C'est quand même une campagne assez inédite, et Emmanuel Macron, qui joue par ailleurs un jeu extrêmement dangereux, il se fait ainsi l'héritier de Mitterrand, qui avait propulsé le Front National, il est en train de se faire le promoteur du Rassemblement National. Il tape sur le Rassemblement National pour en faire la promotion et pour en faire l'unique opposant.
C'est extrêmement dangereux. C'est un peu paradoxal ce que vous dites, s'il tape dessus, ça n'est pas pour en assurer la promotion.
C'est pour en faire l'unique opposant, pour gommer toutes les oppositions républicaines. C'est extrêmement dangereux pour la République, c'est extrêmement dangereux pour la démocratie. Les Français ont le droit de voter pour leurs convictions. Il n'y a pas seulement deux listes dans cette élection, il y en a plusieurs, et le 26 mai, moi j'appelle les Français à voter pour leurs convictions, 34, dont une communautariste, et c'est ce qui m'a vraiment inquiétée, celle de l'Union des démocrates musulmans, qui est une liste qui a été d'ailleurs validée après le dépôt officiel des listes, et qui m'inquiète et qui dit beaucoup sur l'état de la France aujourd'hui. Je pense que d'ailleurs sur ce sujet de l'islam, mais vous connaissez mon engagement sur la question, un engagement constant, de vraie conviction, une détermination. Il n'y a pas une seule fois le mot islamisme dans le programme de La République En Marche. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Ils nous ont fait le coup au présidentiel.
C'est un oubli d'après vous, ou c'est une
vous
stratégie?
Vous savez, lors des présidentielles, il y avait eu ce terrible attentat avec un policier qui avait été tué sur les Champs-Élysées. Je pense que vous vous en souvenez. Emmanuel Macron avait été invité dans une matinale d'une autre radio et il avait dit: je ne vais pas écrire un programme dans la nuit sur la lutte contre le terrorisme islamique. Il voulait être candidat à l'élection présidentielle. Il n'avait pas pensé à écrire un programme pour lutter contre le terrorisme islamique, alors qu'il voulait devenir président de la République.
Mais peut-être qu'en l'occurrence, ce n'est pas une compétence européenne du Parlement européen d'abord.
Ils veulent faire le même coup pour l'élection européenne, en ne parlant pas du problème de l'islamisme qui touche toutes les sociétés européennes. Nous nous assumons de combattre l'islamisme. Nous sommes la seule liste à vouloir combattre l'islamisme en proposant un bouclier contre l'islamisme, en demandant à ce que les étrangers qui viennent en France ou en Europe signent une charte des droits et des devoirs, où on dit, voilà, les femmes et les hommes sont égaux. On n'enferme pas les femmes. Il n'y a pas d'excision. Et ce genre de choses. Et puis par ailleurs, c'est un enjeu de civilisation. Il faut être fier de notre civilisation. On est aussi la civilisation héritière des Lumières, des racines judéo-chrétiennes, gréco-latines. Et tout ça doit être préservé. Et on est la liste et l'unique liste fière de cette civilisation.
Mais alors qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là des musulmans qui vivent en France?
Mais je suis musulmane moi-même. Et il n'y a aucun problème quand on est musulman à vivre en France et à vivre en Europe. Il y a quand même un mode de vie, il y a des valeurs, des règles à respecter et on peut très bien vivre en étant musulman, juif, bouddhiste quand on respecte ces valeurs.
Et Frédéric, dans ce chapitre d'ailleurs, dans votre programme européen, il est écrit « Nous voulons fermer les mosquées islamistes ».
Bien sûr.
Une proposition qui trouvera un large écho évidemment parmi les candidats. Cela dit, ça n'a aucun rapport avec les compétences du Parlement européen, vous le savez.
Vous savez, au Parlement européen, il y a de nombreux lobbies et il y a notamment des lobbies d'associations féministes islamiques qui sont en train de faire un travail de fond pour imposer le voile comme quelque chose de normal et comme une norme. Et pour attaquer la France notamment sur la loi contre la burqa ou la loi qui fait qu'on ne va pas à l'école publique et laïque en étant voilé. Donc ce travail-là, ils sont en train de le faire. Et nous, on est dans l'hésitation. Moi, je crois qu'il faut être dans le combat et la résistance. Expulser tous les imams radicaux qui prêchent la haine de la France, la haine de l'Occident, c'est un devoir aujourd'hui. Il y a même au niveau européen, et je l'avais écrit dans mon livre qui s'appelle « Ça n'a rien à voir avec l'islam, face à l'islamisme, réveillez-vous, réveillons-nous », vous avez... Une forme d'institution qui est en fait le Conseil européen de la charia qui est présidé par Ghanouchi et qui voudrait que les musulmans écoutent ce conseil pour leur dire comment vivre. Mais moi je crois que c'est extrêmement dangereux de laisser ce genre de choses vivre en Europe et il faut s'opposer à cela de manière très ferme parce que ça permettra à chacun de vivre vivre ensemble et ça évitera cette scission qui est en train de se mettre en place tant en France que dans les autres démocraties européennes.
Mais alors justement, par rapport à cela, est-ce qu'il n'y a pas aussi un certain nombre de facilités de langage, alors que dans les faits, c'est très compliqué.
C'est du courage, c'est pas de la facilité de langage.
Du courage, c'est-à-dire.
C'est du courage.
Vous pensez que la République en marche manque de courage à cet égard?
Oh oui, j'ai tellement d'exemples à vous donner. Nathalie Loiseau, par exemple, compare le voile islamique à ce que portaient Sœur Emmanuelle et Mère Teresa.
Quand est-ce qu'elle a dit ça?
Eh ben, c'est écrit dans son livre Choisissez tout, qui a été publié chez Lattès en 2014, nous avions publié dans la même maison d'édition. Vous avez Aurélien Taché de La République En Marche, qui n'est pas candidat aux européennes, mais qui est député, qui compare le voile qu'on impose à des petites filles de 6 ans, 7 ans, et ça existe aujourd'hui.
Ce n'est pas une parole malheureuse,
c'est constant. Aux serre-têtes qu'on met aux petites filles. Vous avez Marlène Schiappa, il y a un amendement qui a été déposé au Sénat par des sénateurs Les Républicains pour revenir à la circulaire Châtel pour interdire les mères accompagnatrices voilées de venir pendant les temps scolaires avec un voile pour vraiment préserver la laïcité. Marlène Schiappa, interpellée par des associations féministes islamiques, leur dit « Ne vous inquiétez pas, de toute façon, ça ne passera pas. » Voilà. Il y a tellement d'exemples à vous donner. Le silence sur l'affaire Décathlon, j'ai alerté sur la commercialisation du hijab islamique de l'affaire Décathlon. Marlène Schiappa a été dans le silence. Quand il y a eu l'affaire
Gap... Un foulard
Gap,
pour faire du sport et notamment du
ce qui relève Gap, des libertés
silence.
Des personnes, Lydia Guirouz.
Écoutez, quand on est féministe, quand on lutte contre le sexisme, on lutte contre le voile islamique.
Vous ne trouvez pas qu'il y a eu une sorte de panique morale malgré tout là-dessus? Après
volonté.
Tout, si on veut courir avec une cagoule, pas
non,
de
non,
cagoule.
Vous savez, ça commence par dire on va courir avec une cagoule et puis après c'est toutes les filles qui sont dans les quartiers, toutes celles qui sont musulmanes à qui on dit mais pourquoi tu cours sans porter le voile? Moi je l'ai connu quand j'étais au lycée à Roubaix, à la piscine. Mais non, il faut pas aller à la piscine parce qu'on ne se montre pas en maillot de bain. Donc il faut céder pas un pouce sur ces questions-là. La liberté c'est pour toutes les femmes, c'est pas seulement pour les femmes de certains quartiers, de certaines cultures et de certaines origines sociales. Toutes les femmes y ont droit, y compris les femmes musulmanes et pauvres.
Mais le corollaire de tout cela aussi, c'est que c'est une manière, le fait de courir, de faire du jogging, c'est une manière d'être dans la société et
mais
c'est ça qui devrait être privilégié.
La réalité, c'est qu'il faut amener ces femmes à pouvoir courir en toute liberté sans avoir à se couvrir la tête parce que leurs cheveux ne sont pas impurs. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, alors qu'on est à une semaine du scrutin, la seule liste à pouvoir et à vouloir lutter contre l'islamisme, c'est la liste des Républicains. Et là-dessus, vous êtes en face des Républicains, avec La République En Marche, dans le silence absolu, voire la complaisance.
Continuons de balayer votre programme. Il y a un mot qui est très intéressant et qui marque une certaine inflexion idéologique, peut-être à droite, c'est celui de barrière douanière aux frontières de l'Europe. Jusqu'à présent, c'était un parti qui revendiquait évidemment la liberté des échanges, le libre-échange. Est-ce que cela, c'est fini chez les Républicains?
Chez Républicains, il y a plusieurs tendances, bien sûr. Alors nous avons proposé dans notre programme la barrière écologique. Je pense que vous faites allusion à cela. C'est important parce que c'est une façon aussi de préserver nos producteurs et de taxer ces produits qui ne sont pas produits en subissant les mêmes normes et qui viennent sur le marché, qui sont souvent moins chers. Imposer une taxe pour des produits qui viennent de l'autre bout du monde, mais qu'on produit également en France ou en Europe, je trouve que c'est très bien parce que ça préserve l'environnement et en même temps ça préserve nos producteurs, nos éleveurs et ça préserve aussi nos consommateurs parce qu'on leur permet ainsi d'avoir des produits de meilleure qualité.
Vous définissez comme libéral ?
Non, moi je suis pas favorable à l'ultralibéralisme. Je pense que le capitalisme est une bonne chose, mais plutôt familial. Je suis pas pour cette économie qui est un peu déconnectée. Et pourtant, je fais des études en finance. Je pense qu'il faut une économie qui soit quand même ancrée et je suis très attachée aussi au modèle social français. Je trouve qu'en 2008, il nous a quand même pas mal sauvés.
Mais alors, ça veut dire que aujourd'hui cette droite libérale, parce que
elle est diverse, la droite, moi c'est ma tendance, d'autres sont plus libéraux que moi.
Alors qu'est-ce qui vous distingue dans ce cas-là de La République En Marche, dont vous disiez tout à l'heure que c'était une auberge espagnole et que finalement Emmanuel Macron pouvait dire tout et son contraire.
Nous avons une colonne vertébrale, nous sommes les héritiers de Jacques Chirac, de Gaulle, nous avons une certaine laïcité comme vous. Mais je suis pas. Alors laïque, faut quand même préciser. Laïque, ça veut pas dire qu'il refuse toutes les religions.
François-Xavier Bellamy. Sur le plan personnel, je l'espère.
La République, elle est laïque. La France, elle est judéo-chrétienne et les paysages de la France se voient. Et je pense que ça peut tout à fait aller ensemble. Nous avons tous les mêmes valeurs, la même vision de la France. On a envie de rétablir la France. On a envie d'ordre. On a envie que l'individu puisse s'épanouir. Nous sommes contre les déterminismes. Nous sommes pour une France où celui qui travaille, qui fait des efforts, eh bien que la méritocratie le récompense. Et ça, ça nous distingue des autres familles politiques.
Merci beaucoup Lydia Guirouz. Vous êtes candidate Les Républicains, porte-parole des Républicains. Merci d'avoir dialogué avec nous. Et nous accueillons Manuel Bompard. Bonjour Manuel.
Bonjour.
Bompard, merci d'être là. Vous êtes deuxième sur la liste de la France Insoumise. Vous êtes ancien directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Nous sommes ensemble pour une dizaine de minutes en fonction des calculs imposés par le CSA. Manuel Bompard, une première question. Est-ce véritablement justifié pour la France Insoumise de ne pas se dire de gauche ?
Je pense que la France Insoumise, elle porte des propositions politiques qui sont traditionnellement dans ce qu'on appelle la gauche, pour la justice sociale, la justice fiscale, la prise en compte de l'impératif écologique, la nécessité d'une démocratie renouvelée avec la 6e République pour que le citoyen ait davantage de pouvoir. Donc c'est des propositions qui sont traditionnellement des propositions classées à gauche. Maintenant, la gauche, pour beaucoup de gens, c'est la gauche de François Hollande. C'est le quinquennat précédent et ça a semé beaucoup de désespoir et beaucoup de désillusions. Et malheureusement, il a mis ce mot en jachère, Monsieur Hollande, en faisant ça. Et donc, la France Insoumise, elle préfère s'adresser davantage au peuple dans son ensemble, dans sa diversité, à partir de ces propositions politiques-là, pour leur dire que le bulletin de vote de la France Insoumise représente, de ce point de vue-là, une alternative à ce qu'on a aujourd'hui au pouvoir.
Mais alors, vraiment, c'est à cause de François Hollande, de Manuel Valls, je ne sais pas, je vais pas tous les citer, mais c'est à cause de ça que vous avez souhaité oublier, parce que c'est un mot quand même qui, je crois, a une longue histoire, la gauche, Manuel Bompard.
Si la gauche, c'est la loi El Khomri pour mettre en danger nos droits sociaux et nos droits du travail, si la gauche, c'est l'inaction sur la question environnementale, si la gauche, c'est la déchéance de nationalité, alors oui, malheureusement, il a mis ce mot-là en grande difficulté. Donc voilà, après là, c'est une question théorique, mais je pense que d'un point de vue pratique, il faut s'adresser aux citoyennes, aux citoyens, et leur proposer de se retrouver sur des propositions politique pour la justice sociale, fiscale, l'écologie, la démocratie, etc.
Frédéric Seix.
C'est intéressant dans cette campagne des européennes, c'est que toutes les listes ou quasiment défendent le mot protectionnisme. On l'a entendu à l'instant, y compris avec une représentante du parti Les Républicains. Pour vous, qui êtes hostile au libre-échange évidemment de longue date, c'est une sorte de victoire culturelle ou au contraire ça vous embête parce qu'il y a un côté où vous avez du mal à vous distinguer des autres, du coup?
Non, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. C'est vrai qu'il y a 15 ou 20 ans, si vous parliez de protectionnisme, vous disiez vous voulez vous renfermer sur vous-même, alors que ça n'a jamais été question. Et je pense que c'est la question écologique et environnementale qui a permis, en fait, de revivifier un peu ce concept et que les gens comprennent que ce n'est pas tenable un mode de fonctionnement, de consommation, d'échange qui soit basé sur le libre-échange généralisé avec ces marchandises qui font deux fois le tour de la planète avant de venir dans le magasin à côté de chez vous. je trouve que c'est une bonne chose que tout le monde y vienne. Après, je pense que les gens préfèrent toujours l'original à la copie. On a besoin de mettre en place des barrières douanières Justement, aux frontières de l'Union européenne.
Pour expliciter cette question, vous plaidez pour une taxe carbone aux frontières dans votre programme. Comment est-ce que vous allez vérifier au cas par cas la production de carbone de chaque produit qui entre sur le marché de l'Union européenne, qui a été fait en Chine, en Amérique du Sud, en Indonésie? Ça va nécessiter des bataillons d'inspecteurs européens qui vont aller voir les usines?
Bah, en tout cas, oui, bien sûr qu'il y a besoin de personnel et notamment de personnel public pour appliquer la loi. Mais ça, c'est toujours le cas quand on met en place une loi.
Il faudra des effectifs infinis à l'échelle du monde.
Non, ce n'est pas très compliqué de estimer notamment le coût carbone du transport des marchandises. Le protectionnisme qu'on propose s'appuie sur plusieurs éléments. Un élément écologique, je viens d'en parler, mais un élément social aussi. On peut empêcher que rentrent sur le territoire européen des marchandises, par exemple, fabriquées par des enfants. C'est insupportable qu'aujourd'hui on accepte de pouvoir commercialiser en Europe des produits qui ont été fabriqués par des enfants. Donc il faut fixer un certain nombre de règles sur la base du kilométrage, hein, et sur la base aussi des droits sociaux qui sont ceux des pays de production. Et ça, je pense que tout le monde y vient et c'est une bonne chose.
Manuel Bompard, dans la protestation des Gilets jaunes, qu'auriez-vous fait si vous aviez été au pouvoir, vous et la France Insoumise, votre parti? Qu'auriez-vous fait pour que ces gens aient satisfaction, si vous considérez bien entendu qu'ils doivent avoir satisfaction?
Bah d'abord, je n'aurais pas fait ce qu'a fait le président de la République, c'est-à-dire cette surdité, cette arrogance, cette carte du pourrissement de la situation, de la répression aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont été blessés dans cette mobilisation de part et d'autre. Donc j'aurais pas fait ça. J'aurais fait bien sûr une discussion avec les gens qui étaient en mouvement et en mobilisation, et j'aurais organisé la satisfaction d'un certain nombre de leurs revendications.
Lesquelles?
Référendum d'initiative citoyenne. C'est possible de faire en sorte que dans notre démocratie représentative, on ait des formes de participation directe des citoyennes et des citoyens. La possibilité de révoquer les élus, l'augmentation du SMIC et des bas salaires, le rétablissement... Pardon?
À combien?
Le SMIC, nous, oui. On avait parlé de 1700 euros brut au début de la mandature et d'aller ensuite, sous 5 ans, jusqu'à 1700 euros net. C'est possible de le faire. Alors souvent, on nous dit oui, mais les petites entreprises vont avoir des difficultés.
C'est-à-dire environ 500 euros de plus?
À la fin de la mandature. Au début, c'est plutôt autour de 200 euros de plus. Mais je pense que c'est impossible aujourd'hui dans notre pays de vivre dignement avec le SMIC. Et c'est possible de le faire. Et je vais même vous dire, c'est bon pour l'économie. Parce que quand vous redistribuez de l'argent à celles et ceux qui ont le plus de difficultés, c'est de l'argent qui circule. Alors que quand vous faites un cadeau comme Monsieur Macron aux personnalités les plus riches de ce pays, bah c'est de l'argent qui part dans l'épargne ou dans la spéculation financière. Donc faire ça, c'est bon pour le pouvoir d'achat et c'est bon pour l'économie.
Manuel Bompard, ces propositions, finalement, elles sont social-démocrates fortes. C'est-à-dire augmenter le SMIC, modifier la fiscalité. On est très loin de la révolution. Alors, pourquoi parler de révolution?
Alors attendez, d'abord, nous, on parle de révolution citoyenne. Une révolution, c'est au sens d'un changement assez total et complet des manières d'organiser le monde. Maintenant, je crois que vous, excusez-moi, mais que vous raisonnez un peu avec des lunettes du passé. La social-démocratie est morte. Notamment parce qu'elle n'a pas pris en compte la question centrale qui est la question de l'urgence écologique et climatique. Et aujourd'hui, la question pour le camp de l'émancipation, on va dire si on veut pas utiliser le mot gauche que nous représentons, c'est de repenser l'ensemble de notre doctrine politique à partir de la question écologique et environnementale. C'est ce que nous faisons avec la France Insoumise, avec notamment cette proposition forte, c'est la règle verte. On fait en sorte que toute question, tout sujet soit conditionné aujourd'hui à des critères écologiques et environnementaux.
Vous souhaitez dans ce programme également ne plus accepter les règles budgétaires qui sont une forme de carcan de Bruxelles. Vous proposez même un droit des États à la désobéissance aux règles européennes s'ils estiment que leurs intérêts fondamentaux sont en cause. C'est page 10 pour ceux qui voudront se reporter au programme. Est-ce que ce droit à la désobéissance pour les États qui estiment que leurs intérêts fondamentaux sont en cause n'est pas le risque de donner un blanc-seing aux pays comme la Hongrie qui refuse par exemple toute politique commune sur l'immigration?
Non, Manuel Bompard. Si on veut une politique commune sur... Je vais répondre à votre question, mais d'abord, si on veut une politique commune sur l'immigration, il y a des outils et des armes qu'on peut utiliser. Par exemple, une arme qui est l'arme budgétaire. La France a une contribution nette au budget de l'Union européenne, mais ce n'est pas le cas de la Hongrie. Donc, si la Hongrie veut participer d'un espace, l'Union européenne, qui a au cœur un certain nombre, normalement, en tout cas dans les textes, de respect d'un certain nombre de principes et de droits fondamentaux, elle doit, et donc si elle souhaite aussi recevoir des fonds européens et des aides européennes, elle doit respecter ces règles-là.
Oui, mais vous comprenez ma question. Chaque gouvernement voit ses intérêts nationaux à son aune.
J'entends votre question. Mais la question qui est posée aujourd'hui, c'est qu'on voit bien que l'Union européenne s'éloignant des peuples, les peuples s'éloignent de l'Union européenne. On a le Brexit sous les yeux. Et il faut rétablir une forme de souveraineté populaire. Donc oui, en dernier ressort, c'est les peuples nationaux, puisque aujourd'hui c'est le cadre national qui permet l'exercice de cette souveraineté qui doivent avoir le dernier mot. Et il n'est pas possible que la Commission européenne prenne aujourd'hui des décisions qui s'imposent aux décisions des peuples européens. Moi, je suis donc favorable, mais je suis favorable pour autant à une forme d'intégration européenne qui permette de faire avancer nos droits au niveau européen, qu'on aligne nos législations, par exemple, sur les droits des femmes vers le haut, qu'on aille vers une harmonisation sociale et fiscale. Mais aujourd'hui, c'est pas ce qu'on a sous les yeux. Alors, tant qu'on n'a pas ça sous les yeux, bah, il faut faire en sorte qu'en tout cas, l'Union européenne ne nous fasse pas faire l'inverse de ce que souhaitent faire nos peuples européens. Si le peuple français vote pour l'augmentation du SMIC, le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, la prise en compte de l'urgence écologique et donc la désobéissance aux règles des 3%, parce qu'on peut pas faire la transition écologique dans ce carcan budgétaire.
Et si le peuple hongrois vote contre les migrants?
Et ben après, à nous d'en tenir compte, de savoir si dans ce cas-là, on veut avoir une construction commune avec le peuple hongrois. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va pas décider à la place des Hongrois. Bien sûr que s'ils décident ça, je ne suis pas d'accord avec eux. Mais c'est le principe de la souveraineté populaire. Je préfère qu'on se pose la question de savoir pourquoi il fait ça et de s'attaquer aux causes qui génèrent aujourd'hui des tensions et qui conduisent à la montée des offres politiques xénophobes en Europe. Quand on a Monsieur Salvini en Italie, c'est aussi parce que on n'a pas été en capacité d'avoir une manière de répartir la charge migratoire en Europe et qu'on a laissé à l'Italie l'ensemble du problème et donc ça conduit à la montée des forces nationalistes et ça c'est un problème.
Manuel Bompard, vous êtes deuxième sur la liste La France insoumise aux élections européennes. J'ai la une de Libération, tandis que rentrent d'ailleurs mes camarades dont Cécile Domas de Libération. Gauche opération survie, il y a donc le visage des têtes de liste aux élections européennes avec disons une gauche donnée, allez, environ 30% est aux européennes, on peut discuter de ce chiffre, mais dans ces environs, comment vous expliquez cela au terme d'une mobilisation sans précédent des Gilets jaunes qui aurait pu être perçue comme étant une mobilisation de gauche?
Bon, en deux minutes, c'est difficile, mais d'abord, je pense qu'il y a le résultat du quinquennat de François Hollande qui a déçu et désillusionné beaucoup de gens, premièrement. Deuxièmement, je crois qu'il y a une difficulté vis-à-vis de la question européenne depuis 2005 et le vote sur le traité constitutionnel européen où beaucoup de gens se disent finalement à quoi bon aller voter aux élections européennes parce qu'on ne tient pas compte de notre avis. Moi, je crois que ce serait se tromper de faire ça. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la dernière ligne droite, il y a une force politique parmi les cinq dont vous parlez qui est en capacité d'aller perturber le duo infernal qui a été mis en place par le président de la République avec le Rassemblement National. C'est la France Insoumise qui, aujourd'hui, dans les dernières enquêtes d'opinion, a annoncé à 10% des voix. Et donc, si dans la dernière ligne droite, les citoyennes, les citoyens qui nous écoutent viennent donner de la force à la France Insoumise, on peut aller perturber ce duel infernal, passer devant la droite et faire en sorte qu'il y ait une alternative à l'extrême droite ou à l'extrême marché, c'est la France insoumise.
Merci beaucoup Manuel Bompard d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes deuxième de la liste de la France insoumise.